Fréquence Mistral.
Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir dans nos studios King Crab. King Crab, comme son nom ne l'indique pas, c'est un groupe marseillais. C'est deux frères qui vivent à Marseille depuis de nombreuses années. C'est un groupe avec des sonorités groove, funk, soul, et qui a fait un carton dans le monde entier avec leur premier album, All In. Et j'exagère très peu. Ils ont fait une tournée en Chine et aujourd'hui, après toutes ces aventures, ils reviennent avec un nouvel album, Tomorrow Can Wait. On a le plaisir de les recevoir pour présenter cet album et les sons qui l'accompagnent. Bienvenue à tous les deux, Adam et Lucas.
Merci.
Salut Yacine, merci de nous recevoir.
Bah, c'est un plaisir de recevoir. Bon, je l'ai pas précisé dans l'intro, mais vous n'êtes pas qu'un groupe, vous êtes aussi deux frères dans la vie quotidienne. Et on va commencer avec une question très simple pour vous. C'est quoi la recette secrète pour faire de la bonne musique?
Waouh.
Alors, je pense pas qu'il y ait de recette secrète, mais je pense que ce qu'on peut faire, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'être sincère avec soi-même, de pas se mentir quand on se met à faire de la musique. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, tu le sais au fond de toi. Donc voilà. Et nous, ce qu'on a appris avec le temps, c'est justement de prendre le temps de faire bien les choses. Voilà, évidemment, faut pas se perdre avec les notions de perfectionnisme, mais voilà, je pense qu'il faut laisser refroidir, faut revenir, ça prend du temps.
Et justement, c'était ma seconde question, c'était quoi votre processus créatif pour cet album et pour les précédents? Comment vous travaillez? Parce que je rappelle que vous êtes frères, j'imagine que c'est quand même une aventure un peu familiale, j'imagine qu'il y a d'autres personnes de votre famille qui sont regroupées ou en tout cas qui écoutent vos sons. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des sortes de poissons de truite à qui vous faites écouter les sons et qui vous disent ça c'est bon, ça c'est non? Est-ce que c'est vous qui les réécoutez uniquement vous pendant le processus créatif? Comment vous fonctionnez?
Quand même, on essaie de faire un peu attention avec les avis de tout le monde, parce que y en a beaucoup des différents et il ne faut pas non plus se perdre là-dedans, parce que si tu fais écouter un tel, il va te dire l'autre va te dire. Et au final, tu as 250 avis.
Ouais, on se noie dans les commentaires.
Voilà, c'est ça. Donc, nous, on n'a pas vraiment de recette non plus miracle pour comment composer un morceau. Et ça peut arriver de plein de façons différentes. Il y a eu des fois où Lucas, il avait une mélodie à la voix et on est parti de ça. Et ensuite, on a commencé à faire un beat de batterie, on a mis des accords de clavier. Voilà, on fait ce qu'on entend, ce qui nous vient et on essaie de se laisser un peu aller, mais il y a quand même un truc qui revient souvent. On part souvent d'une grille de piano, hein. C'est arrivé pas mal de fois, hein, j'ai l'impression. Hein.
Donc voilà. Les accords, ouais. Après on commence à mettre de la basse ou de la batterie très vite, ouais. Et on essaye de trouver ce qu'on appelle aujourd'hui la top line. Une mélodie, moi je préfère ce terme-là, un bout de mélodie, un bout de quelque chose, et après moi, très vite, j'essaye de trouver un thème, une ambiance qui va me permettre d'écrire quelque chose, parce que je suis pas très fan de faire du yaourt. Je suis pas extrêmement à l'aise là-dessus.
Dans le processus.
Dans le processus, ouais. Je préfère
penser direct à des paroles. Quoi.
Penser direct à des paroles, ouais. Et alors par rapport au processus d'écoute et de réécoute. Adam, c'est un tryharder là-dessus, hein. C'est-à-dire que lui, il va écouter en boucle ce qu'on vient de faire, ce qu'on a fait et tout. Il va se le passer pendant plusieurs jours pour réfléchir à tout ça. Et ça, c'est un peu une partie du processus. Ouais.
Ouais. Mais justement, sur l'écoute, si vous deviez conseiller à quelqu'un d'écouter votre musique, ça serait dans quelles conditions? C'est quoi les conditions parfaites pour écouter King Crab?
Il y a un truc qui revient souvent. Vas-y, je t'en prie.
Nous, on a souvent eu ce retour-là. C'est on a envie d'écouter votre truc dans la voiture, fenêtre ouverte.
Pendant un voyage.
Sur la corniche. Tu vois. Bon.
Ouais, c'est souvent ce thème de l'invitation au voyage qui revient.
C'est
peut-être le meilleur moment, parce qu'au final, un voyage, un trajet en voiture, c'est
du temps mort.
C'est du temps mort, donc Ouais, tu peux vraiment utiliser ce temps.
Après, si t'es un peu plus geek, moi je dirais avoir un bon système son et se le caler chez soi aussi, ça peut être très bien.
Voilà. J'avais mon petit avis sur la question parce que je me suis posé la question à moi-même et je me suis dit que c'était parfait pour un trajet de nuit en vélo dans Marseille après une soirée sympathique.
Génial.
Ouais. Ou sous un pommier l'été en se détendant, en écoutant de la musique tranquille.
C'est pas mal ça. Ouais, je l'avais pas faite celle-là encore. Bravo.
On travaille pour les interviews ici. À Fréquence Mistral. Non, comme je dis, oui, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Bien sûr, j'avais envie de parler avec vous un petit peu du passé quand même. Après cet album All In, vous avez fait une tournée en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça a eu des influences sur vos sons? Est-ce que ça vous a donné un nouveau regard sur la musique après ces voyages?
Bon, la tournée en Chine, pas spécialement. Non. Après, ce qui était bien avec ce moment-là, c'est que ça nous a permis de rencontrer un public qui est entièrement différent que le public français. Les Chinois sont des gens beaucoup plus, je pense qu'ils ont beaucoup plus de pudeur et ils font preuve de beaucoup moins de liesse dans leur manière d'applaudir et pourtant ils sont beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire que la moindre scène c'est tout de suite 5000 personnes.
Par contre, il y a une grosse écoute. Moi j'ai trouvé que quand on y était, ils sont assez absorbés par ce que tu fais vraiment ils t'écoutent, ils te regardent, ils kiffent, tu vois, ils adorent, quoi.
Ouais, je pense qu'ils découvrent... ils se sont ouverts à la culture occidentale sur peut-être les 20 dernières années, donc du coup, nous, on est arrivés là-dedans et ils voient des trucs qu'ils ont peut-être jamais vus avant, donc c'est nouveau pour eux.
Ouais, et justement, dans la manière de connecter, j'imagine que vous avez une manière de connecter au public pendant vos concerts ou en tout cas d'essayer de créer une connexion sur les lives. Mmh. Est-ce que c'était la même chose en Chine et en France? Est-ce que vous avez vu des différences là-dessus?
Nous, on s'est comporté sur scène de la même manière. Le public chinois, par exemple, je me rappellerai toujours d'un... Je ne sais plus dans quelle ville on était, je crois que c'était à Shunde.
Ouais.
Il pleuvait des cordes.
C'était Ningbo juste avant.
C'était Ningbo. Ouais, ouais. Il pleuvait des cordes et ils étaient tous avec des parapluies et tous.
Ah ouais, ils s'en foutaient. Il pleuvait, mais on va regarder le concert. Quoi.
ils avaient tous des petits.
C'est pas Marseille là.
Ils avaient des petits trucs pour applaudir, des petits claps.
Ouais. Les petites baguettes.
Des petites baguettes avec des petites mains dessus comme ça. c'était trop drôle. Ouais. C'était très sympa. Ils adorent faire des photos après derrière.
Ouais, en plus, vous deviez être des sortes d'ovnis pour eux. Ils doivent avoir une rencontre particulière.
Moi, j'ai des souvenirs quand je me baladais quand on se baladait dans les rues là-bas. En fait, j'avais les cheveux un poil plus longs et ils étaient détachés avec un peu de barbe. Et en fait, quand ils te voient, ils font waouh, ils n'ont pas l'habitude parce que là-bas, la barbe, c'est pas du tout à la mode, par exemple.
Ah, ouais.
C'est plus la mode imberbe, en fait. Et c'est plus ces anciens qui ont la barbe, donc du coup ils te regardent, ils ont pas du tout l'habitude, tu vois, et ils sont fascinés, en fait, tu vois.
Et à ce moment-là, en fait, tu prends vraiment la notion de ce que c'est que d'être l'étranger, tu vois. C'est bluffant.
On imagine bien. Justement, sur la thématique de votre album Tomorrow Can Wait, déjà je vais vous demander pourquoi ce titre, qu'est-ce que c'était le but, mais surtout, est-ce qu'il y avait un message central ou une sorte de, je vais réutiliser tes termes, de top line dans cet album? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre un message ou au contraire chaque son est différent et vous n'avez pas vraiment cette ambition-là?
Le propos de l'album, il y en a un. Il y a un propos central qui est justement le propos, qui est le titre de ce morceau et aussi de l'album, puisqu'il va sortir en single et c'est le nom de l'album, Tomorrow Can Wait. Ça veut dire en gros, demain peut attendre. Alors ça ressemble au titre d'un James Bond, mais en fait c'est rien de plus, rien de moins qu'une invitation à profiter de l'instant présent. Et nous, on a travaillé autour du thème de la nostalgie. Et donc, du coup, c'est aussi une invitation à se replonger dans ses souvenirs d'enfance, adolescence, et à croquer un peu dans cette nostalgie sans sombrer dans le truc de « c'était mieux avant ».
C'est un instant qu'on s'offre. Hein,
c'est une nostalgie heureuse.
Oui, voilà, c'est une bulle. C'est une bulle qui nous fait tous du bien, qui nous permet de respirer quand... voilà, le monde tourne trop vite.
Voilà, c'est...
C'est vrai qu'il faut quand même le préciser pour les auditeurs et auditrices, on est à radio donc on peut pas voir, mais King Crab c'est aussi une esthétique très léchée, notamment sur cet album et sur les clips. Moi je sais que j'ai été vraiment ébouriffé, j'aimerais bien dire ébloui par le clip de...
The Roof.
De The Roof, ouais, effectivement, où je trouvais que c'était incroyable, c'est une sorte de pixel art, donc pour les auditeurs, il faut imaginer, c'est une image un petit peu comme sur Nintendo 64, avec... une esthétique léchée, des couleurs, bon, je sais mal parler des esthétiques, mais en tout cas, c'est vraiment une esthétique, et sur les clips, on le voit aujourd'hui que c'est, ça fait partie de votre identité aujourd'hui.
Ouais, absolument, on a eu envie, voilà, de connecter la musique avec des éléments visuels, et le pixel art, c'est quelque chose qui est assez en rapport avec notre version de la nostalgie, puisque voilà, nous on est nés dans les années 80-90, donc on a connu les consoles de jeux,
la partie jeux vidéo de la nostalgie que nous on a connu, quoi.
Ouais, voilà, absolument, les... ouais. Et du coup ce The Roof, c'est ce clip là c'est une scène,
c'est un date
issu d'un jeu vidéo finalement.
Ouais, bah justement, on va quand même écouter The Roof. C'est l'occasion d'écouter ce titre et de découvrir un peu ce que King Crab a proposé. Donc on va faire une petite pause et écouter ce premier son.
Yes.
Juste après The Roof, on va parler quand même de ce titre qui est un de vos titres justement de l'album. Comment vous l'avez composé ? C'était quoi l'inspiration dessus ? C'était quoi le message ? Voilà, on va rentrer dans le détail de The Roof.
Alors, l'inspiration, si je me souviens bien, on est parti d'un morceau de Thundercat à la base, mm-hmm. qui s'appelle Overseas. Et on aimait beaucoup ce morceau avec Lucas. C'était là dans le dernier album qu'il a fait. Et en fait, pendant un moment, je l'écoutais en boucle, lui aussi. Et je me dis, j'aimerais bien faire un truc qui sonne un peu comme ça, à notre sauce, évidemment. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu de piano. Et puis il y a une grille qui est arrivée assez vite, tout ça. Et puis,
quatre accords. En boucle.
Couplet
et refrain, tout quatre accords. Point.
Voilà. Et puis ensuite, c'est suivi voilà, tous les instruments qui... d'accompagnement, voilà, guitare, basse et tout ça. Et ensuite, il a fallu qu'on trouve de quoi ça parle. Et voilà, et Lucas, il a trouvé une super top line aussi.
Ouais, alors je me souviens plus pourquoi j'ai eu cette idée là, mais disons que voilà, à un moment donné, peut-être dans un morceau de yaourt, tu vois, que tu vas dire une phrase où il y a un mot qui va être un peu saillant, et tu dis voilà, ça va être le relief du morceau, peut-être, et il y a peut-être ce mot roof qui est sorti, tu vois.
Et là, j'ai dit la direction.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec roof? Roof, c'est le toit. Et tout de suite, le toit est venu, peut-être l'idée de partager un moment sur un rooftop, je sais pas. Et les choses se sont construites comme ça. Peut-être, admirer une skyline au moment du coucher de soleil. C'est des thèmes qui sont légers, mais qui parlent à tout le monde. Donc il y a une universalité là-dedans. Qui est devenue évidente.
Et donc, vous avez toujours cette manière de travailler, j'ai l'impression quand même de trouver le squelette de la musique au travers de quatre accords guitare ou piano, et ensuite, vous venez incrémenter, implémenter des sons à côté.
Ouais. Les accords, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, parce qu'en fait, grâce à ça, se dégage vraiment l'ambiance, tu vois. Avec des accords, sans parole, tu peux dire des choses. Tu peux dire, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est joyeux, et ça c'est vraiment le truc de base. Mais tu peux dire est-ce que c'est mélancolique, est-ce qu'il y a du suspense,
c'est mystérieux, voilà, c'est, ouais.
Selon plein les couleurs que tu vas mettre dans les accords, tu peux déjà raconter plein de trucs. Et c'est pour ça qu'après il y a cette idée de réécouter en boucle pour se dire,
pour être bien clair sur où on va, qu'est-ce que ça veut dire, enfin qu'est-ce qu'on ressent,
ouais,
voilà, c'est important, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que là, vous parlez vachement de ressenti et tout ça, mais vous travaillez, je rappelle, vous êtes deux frères. Qu'est-ce que c'est comment on travaille quand on est deux frères? Est-ce que c'est plus facile, plus compliqué? Est-ce que Oasis, c'est une inspiration pour vous? Comment vous...
Oasis, c'est l'exemple à peut-être pas suivre, même si ils sont géniaux à deux. Bon, voilà. Mais non, en fait, ça t'apprend à écouter l'autre. Et
il y a pas mal de points, en fait. Disons que comme on est frères, on a moins de filtres sur des choses, donc on peut se dire quand on n'aime pas quand on aime, bien sûr, mais quand on n'aime pas, on se le dit et on perd pas de temps. Et, et tu vois, il y a peut-être un peu moins ce truc d'ego ou de vexation,
complètement,
de politesse qu'on peut avoir avec
Et d'ailleurs, quand tu travailles pas avec ta famille, ce genre de choses en groupe, c'est un facteur à gérer. Voilà, et selon avec qui tu travailles, voilà. Mais bon, nous, on a moins ce problème. Après, c'est arrivé qu'on chamaille sur des trucs, mais bon, voilà, ça finit toujours, ça dure deux minutes. Et
puis globalement, voilà. On est quand même complémentaires, c'est-à-dire on a des compétences à des moments, des endroits bien précis dans le processus créatif qui font que quand il y en a un qui commence à pédaler, l'autre prend le relais et inversement. Ouais. Et puis parfois même, on peut se donner des idées sur des terrains qu'on est censé maîtriser. Moi, je vais lui donner des idées de basse.
Ça s'est arrivé plein de fois. Il y a des idées de basse, c'est lui, sur des morceaux.
Voilà, et puis ça arrive que lui, il arrive avec une idée de mélodie à la voix que je trouve géniale. Et voilà, donc c'est des échanges qui jalonnent comme ça le parcours.
Complémentarité, voilà.
Ouais.
Et comment justement, alors c'est une question qui vient de me venir, mais qui fait quoi dans le groupe, en fait? Vous maîtrisez quel type d'instrument? Comment vous avez commencé? Voilà, la question est vaste, mais je suis quand même curieux de savoir comment ça a débuté, et surtout de savoir qui fait quoi dans le groupe, en fait.
Alors moi, j'ai commencé la basse à 13 ans, un an après Lucas.
Donc Adam, c'est Adam qui parle.
Voilà, c'est Adam. donc j'ai appris l'instrument pendant plusieurs années, et puis dès qu'on a décidé de se mettre à composer, il manquait un truc, tu vois, il manquait le piano. Et comme nous, la musique qu'on a envie de faire et qu'on aime, il y a quand même énormément de, de piano, de son de synthé et tout, je me suis dit, c'est une corde qu'il faut rajouter à mon arc, tu vois. Donc, je me suis mis à bosser le piano. Et d'ailleurs, je suis rentré dans un groupe de cover à l'époque et je l'ai bossé. Okay. J'ai commencé à bosser des grilles. Alors, je ne savais pas jouer. Je suis rentré, j'ai dit, ouais, je veux faire le piano et j'ai commencé à bosser ça.
Il jouait le piano avec 8 doigts. Il ne mettait pas les pouces.
Je ne sais pas si je les mets toujours, d'ailleurs. Mais bon. Et du coup, voilà, donc j'ai rajouté ça à mes compétences. Et puis un petit peu de guitare en le voyant faire lui, voilà. Et donc piano, basse, pas en live forcément le piano, mais voilà, quand on est dans une bulle où on compose, c'est piano, basse. Oh, okay. Pour moi,
alors, moi en ce qui me concerne, ça a toujours été la guitare dès le début. Et quand il a fallu remplir une case manquante, ça a été donc celle du chant. Et il s'est trouvé que j'avais des prédispositions là-dessus, donc je me suis lancé là-dessus et l'écriture est venue vite vite derrière, parce que évidemment tu peux pas chanter des who the hell des shibidihi, donc voilà, on a fait j'ai essayé d'écrire des trucs et évidemment ça s'est perfectionné et ça s'est amélioré au fur et à mesure.
Oui, et puis tu fais un peu de piano aussi, c'est arrivé morceaux tu fasses quand même du synthé, hein, faut le...
Voilà, je connais un peu l'instrument, mais je suis beaucoup moins bon qu'Adam là-dessus.
Et vous venez d'une famille de musiciens ?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Notre père chantait un peu, ouais.
Ouais, il chantait un peu.
Mélomane surtout.
Ouais, voilà, mélomane. Okay. C'est quand même lui qui nous a filé un peu le virus. Voilà, il est arrivé un jour avec une caisse de vinyle dans la chambre de Lucas. Il dit, bon, voilà, les gars, moi j'ai ça. Et dedans, il y avait des trucs, il y avait du Stevie, du George Benson, du Michael,
du Maze,
plein, tu vois, de groupes de funk, de
Herbie Hancock,
de l'époque 70, 80, même 90.
Ça s'entend beaucoup dans vos sonorités aujourd'hui encore, donc quoi ça peut avoir des grosses influences, une caisse de vinyle dans une chambre à un certain âge. Ouais.
Et puis au-delà de ça, l'univers visuel des pochettes de l'époque. Ah, je pense que c'était quelque chose, quoi.
Ouais.
Bah justement, on le retrouve un petit peu dans le clip. Je perds le son.
31 août.
Ouais, 31 août, oui. Exactement. Vous avez un petit peu ce côté, même pas un petit peu, vous avez utilisé ce côté kitsch années 80, poussé au maximum. On sent que vous avez pris du plaisir parce que c'est quand même réjouissant à voir. C'était quoi le but là-dessus ? C'était justement un hommage à ce côté un peu kitschissime des années 80 ?
Ouais. Nous, on adore faire les cons, déjà. Ça, faut le dire. Ouais.
On aime bien ça. Et puis, effectivement, le thème, c'était la nostalgie. Donc, notre nostalgie à nous, c'est une époque bien particulière, c'est-à-dire fin des années 80 et toutes les années 90. Et disons que 31 août, le lien, c'était les productions AB. Donc par exemple Premier baiser, Hélène et les garçons, tu vois, c'est tout cet univers visuel là qui est terriblement kitsch mais qui a quand même marqué l'adolescence et l'enfance de plein de monde. Et on a eu envie de faire un clip complètement lofi,
second degré
avec ces éléments là donc un clip réalisé par Nicolas Capu, qu'on embrasse parce que c'est un copain qui nous suit depuis
et qui a très, très bien compris ce qu'on voulait faire en fait.
Ouais, la direction artistique a été respectée de A à Z.
C'est ça, il a vraiment bien cerné le propos et du coup on a pu illustrer ce qu'on voulait quoi avec lui.
Voilà, et puis il faut quand même aussi noter la présence de Marie-Lou Gérard
dans
le clip et sur le titre, puisque
c'est
un featuring et on a coécrit le morceau avec elle. Ça a été une manière de faire une incursion dans le français, chose qu'on ne faisait pas du tout avant.
C'est un des premiers tubes, il faut le dire, où vous parlez où vous chantez en français.
Ouais. Voilà, c'est le premier et on en est très content et on espère que peut-être on en fera d'autres.
Ouais, ça vous a donné justement l'envie d'aller vers le français dans la musique en tout cas ?
Avec cette direction là, moi ça me cause pas de problème hein, personnellement.
On avait peur du français parce que c'est faut pas se planter, tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi en français. En anglais, c'est quand même beaucoup plus
On peut se laisser porter par l'anglais, là où le français, il y a quand même le message est beaucoup plus écouté, c'est ça ?
Absolument. Et du coup,
Français en France quoi.
Enfin, voilà.
C'est sûr.
Un public qui a une écoute particulière.
Voilà.
Voilà, donc Mais avec le bon style, avec le bon propos, les bons mots, on peut arriver.
Ouais.
On peut y arriver.
Bah justement, on va écouter ce titre 31 août et bah découvrir ce premier tube de King Crab en français. Revient juste après ce son, donc 31 août, donc premier son en français. C'était un plaisir de l'entendre et je pense que c'était un plaisir pour les auditeurs, auditrices. Justement, donc on parlait du fait que ça vous a peut-être donné l'envie d'aller vers le français. Est-ce que vous pensez que sur les prochains sons, ça va être un mélange des deux? Ça sera du français, ça sera de l'anglais? Comment ça se profile? Ou vous savez pas du tout et vous verrez?
Bah, qu'est-ce qu'on pense, toi?
Peut-être que la réponse c'est pas la plus attendue, mais on sait pas du tout et on verra, je pense.
Ouais, on sait pas du tout et on verra. Mais disons qu'on a rien contre l'idée de réitérer parce c'était une bonne expérience.
Ouais, donc c'était quelque chose, mais en tout cas c'était un plaisir à l'oreille. Bon, bien sûr, là, cet album va falloir le convertir entre guillemets en live, le porter sur scène. Mm-hmm. Donc là, ça va être les prochains objectifs. J'ai entendu parler d'un gros festival. Il y a la Fiesta des Suds là, qui arrive pour vous prochainement.
Oui, voilà, c'est le jeudi 10 octobre pour nous. Donc c'est le soir où il y a MC Solar, Ayo, ouais. Entre autres, hein, parce que voilà, il y a une belle programmation. C'est le premier, c'est le soir d'ouverture et on joue au début. Donc voilà,
19h30.
On a un peu le track, mais voilà, on se prépare bien, on bosse, on répète et on va essayer de faire un beau set, ouais.
Ouais, justement, vous allez être tous les deux sur scène seulement ou il y aura d'autres personnes avec vous? Comment vous avez préparé ça?
Eh bah, Au clavier, il y a Marie-Lou Gérard, donc, qui a fait sur 31 août avec nous. Et à la batterie, on sera avec Florence Alain, qui est notre batteur depuis un long moment. Voilà, donc on est quatre, et voilà, guitare, basse, batterie, clavier, on chante, et voilà, on le fait comme ça, quoi.
Et vous avez des petites superstitions avant les lives, les concerts, comment vous préparez juste avant? Est-ce qu'il y a quelque chose, un rituel, ou c'est vraiment en fonction du jour et de l'intuition de la sensation, vous y allez et...
On n'a pas vraiment de rituel spécial, hein. Déjà, on essaie de gérer notre stress, c'est déjà pas mal, tu vois, enfin, surtout pour moi. Après, moi je dirais notre rituel, c'est surtout une bonne préparation, tu vois. Bien répéter, essayer de laisser le moins possible de zones d'ombre dans le set et qu'on sache exactement ce qu'on doit faire. Ouais. Et ça, je pense que ça nous
tranquillise.
Ouais, voilà, Lucas permet. Et moi, ça nous rassure déjà et on sait que voilà, les choses sont écrites, on fait ce qu'on a dit.
Et quand bien même, il y aura toujours un peu la boulangerie, c'est-à-dire quelques pains à droite à gauche.
Ouais, voilà.
Que personne ne verra.
Ok, donc 31, le 10 octobre, donc la Fiesta des Suds. Bien sûr, il y aura d'autres concerts, d'autres dates en live où vous allez devoir retranscrire l'univers de Tomorrow Can Wait sur de la scène.
Ouais.
Là, l'objectif, ça serait quoi? Ça serait quoi l'accueil rêvé pour vous, pour cet album? Qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est faire organiser une release party un peu plus tard avec des invités, des gens qui ont participé à l'élaboration. Je pense à notamment Blanca qui a mixé et masterisé l'album et avec qui on a fait un featuring sur son album à lui, un titre qui s'appelle Fly, que je conseille à tous les auditeurs d'aller écouter. Blanca qui fait partie de la fine équipe. Voilà, donc des gens comme ça. Donc c'est un beatmaker, Blanca, évidemment des musiciens aussi organiques. On aimerait bien peut-être avoir la chance de retrouver Florian Fourlin qui a fait le solo de sax sur Dog Song, un des titres de ce nouvel album, et qui avait aussi fait un solo de sax sur celui d'avant. Voilà, donc concocter une belle release party avec des gens, des amis, des copains et qu'on s'amuse bien, ça serait un bon accueil déjà pour commencer.
Et puis, pour l'album qui soit le plus écouté possible et qu'on arrive à toucher le plus de gens, parce que finalement on fait ça aussi pour ça, tu vois. Et voilà, ça sera déjà un bon début, quoi.
Ouais, cette musique rencontre son public.
Donc de rencontrer votre public et de mettre à l'honneur les personnes qui ont contribué sur ce projet et qui vont contribuer, j'imagine, à l'avenir sur vos prochains projets.
Absolument. Oui.
Comment on fait pour vous écouter, King Crab, si on a envie de voir vos clips, de vous écouter, où c'est que vous êtes dispo?
Alors, on est sur, évidemment, les plateformes de streaming les plus connues, d'autres un peu moins connues aussi. Après, sinon, on est sur les réseaux sociaux type Instagram, YouTube aussi.
Ouais, il faut quand même aller voir YouTube parce qu'il y a des sessions live.
Ouais.
Il y a pas ce genre de choses.
Il y a des choses qu'il y a pas forcément sur Instagram.
Donc c'est quand même. Moi je trouve que c'est une belle plateforme.
Ouais. Et YouTube. Comme vous dites là pour le coup ça devient complètement organique parce que j'imagine si c'est des sessions live filmé pour YouTube ou filmé en live et.
Ouais, c'était surtout filmé pour YouTube.
Ouais, enfin, filmé pour être diffusé sur YouTube. Donc, ouais.
Je suis très client de ce genre de format, donc c'est pour ça que je suis curieux.
Il y a des sessions live de 31 août, de The Roof. Il y a des versions acoustiques, il y a des versions en électrique avec tout le groupe. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que ça donne en live, un titre qu'on aime bien, tu vois. Donc voilà.
Vous êtes présent également sur les réseaux sociaux?
On essaye, parfois on aimerait y être un peu plus, mais on essaye en tout cas.
Quand on Instagram, a des choses à dire.
Instagram, Facebook, on y est. Bon, après Facebook, voilà, c'est un peu...
Vous faites partie des derniers utilisateurs qui se prononcent uniquement quand ils ont des choses à dire sur les réseaux sociaux, bravo à vous en tout cas. Ok, bon, King Crab, on vous retrouve donc le 10 octobre à la Fiesta des Suds. On vous retrouve sur d'autres scènes un peu partout, mais je pense que vous mettrez le détail sur vos réseaux sociaux.
Oui, absolument.
Et prochainement, on a une sortie qui arrive, un nouveau titre, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, donc le 20 septembre, c'est un vendredi.
C'est un vendredi, c'est ça.
Le vendredi 20 septembre, on a le single Tomorrow Can Wait, qui est le troisième single, et ensuite, le 4 octobre, sortira l'album qui porte le même nom.
Bah écoutez, je pense qu'on va terminer sur ça, parce que vous nous avez donné l'honneur et le plaisir de sortir justement ce son qui va sortir vendredi en exclusivité aujourd'hui sur Fréquence Mistral. Donc on va écouter Tomorrow Can Wait, le prochain titre de cet album qui va être lancé sur les ondes et dans le monde. Ben merci en tout cas King Crabs, c'était un plaisir de vous accueillir dans les studios de Fréquence Mistral. Et ben on vous souhaite une longue vie et une belle carrière.
Merci beaucoup Yacine, plaisir partagé.
C'était un plaisir. Allez, Tomorrow Can Wait, ça commence tout de suite.
Back in the day, 'cause at the end of the day.